Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je reviens après quelques semaines d'absence. En ce moment, j'ai un petit peu plus de mal à être régulière dans la proposition de mon contenu. Néanmoins, le podcast existe toujours pour moi et j'ai toujours en tête certains sujets, certaines envies. Je sens que mes lectures sont toujours aussi orientées avec qu'est-ce que j'aimerais vous proposer. Mon emploi du temps étant assez chargé, je décide aussi de faire des épisodes quand j'en ai la possibilité et de prioriser aussi là où je suis présente. Et donc, je compte faire une pause cet été, comme je fais à chaque fois, et j'espère pouvoir vous proposer beaucoup plus de contenu en cette fin d'année. Souvent, la fin d'année, j'arrive à produire un peu plus d'épisodes, puisque j'ai pu un peu plus prendre le temps de lire pendant l'été, à la rentrée, etc. Mais en tout cas, je suis toujours ravie de vous proposer de nouveaux épisodes et aujourd'hui je viens vous parler du suicide. Vous allez vous dire que c'est peut-être un épisode un peu particulier, une thématique un peu étrange, après en plus une absence et je viens vous parler d'une autre absence, celui du sujet qui passe à l'acte. Et en même temps, c'est aussi peut-être une proposition de vous amener à réfléchir à quelques réflexions, quelques pistes pour penser le geste suicidaire. Il y a toujours cette idée que quand je vous propose des épisodes, c'est une forme d'ouverture, que je partage certaines pistes, que soit j'ai pu lire, que j'ai pu développer autant dans ma pratique clinique, mais aussi dans mes propres réflexions. Et après, c'est à vous de faire la suite du chemin. Le suicide, c'est un sujet qui est assez complexe à développer, puisque d'un point de vue clinique, personne ne vient parler de l'expérience qu'il a vécue, puisque si son acte est, entre gros guillemets, réussi, il ne peut pas être après développé, on ne peut pas parler d'après-coup, et donc on rencontre uniquement des sujets qui à un moment ont été face à cette impasse, où le suicide s'est présenté et qu'ils ont pu commettre une tentative de suicide, mais qui aujourd'hui a échoué. Et donc on parle à des sujets qui ont échoué dans la volonté de se donner la mort. Je trouve que c'est un sujet aussi très sociétal, très philosophique, qui est autant plus ou moins parlé, autant plus ou moins tu. Et j'insiste sur le mot tu. Et c'est assez intéressant, je trouve, de regarder les taux de suicide dans les pays, de les mettre en lien avec certaines histoires du pays, dans les effets d'après-coup, dans les générations, dans les transgénérationnels, mais aussi par rapport à comment fonctionne une société. Puisque dans le suicide, et je pense que c'est une vraie question, on peut se demander de quelle mort on parle. Qu'est-ce qu'on vient tuer? Qu'est-ce qu'on vient arrêter? Alors le suicide, il a la même construction grammaticale que le terme homicide, c'est-à-dire l'intention de tuer, et pour le suicide, ça serait du coup l'intention de se tuer soi-même. Et c'est intéressant parce que Joanne André, elle précise cette énigme, c'est-à-dire qu'on parle toujours du fait qu'il s'est suicidé, se suicider, et du coup on double à chaque fois la signification. On renvoie deux fois l'acte à celui qui l'a fait. C'est-à-dire que d'un point de vue grammatical, ça signifie meurtre de soi par soi-même. Donc se suicider, suicider, se tuer soi-même et se par soi-même aussi. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire elle suicide, il suicide, et ça aurait suffi pour comprendre d'un point de vue grammatical de quoi on parle. Mais la langue en a décidé autrement, et notre langage aussi, et à quel point, je trouve, ça vient bien signifier que le langage déjà est une forme d'interprétation. Donc Joanne André, elle poursuit avec cette question que je trouve fondamentale, c'est-à-dire est-ce que c'est par insistance sur le caractère volontaire de soi à soi qu'on double la signification, qu'on crée un pléonasme d'une certaine façon, ou est-ce que, en réalité, dans le fait de se suicider, au fond, il faut toujours être deux, au sens peut-être de quelque chose qui se divise dans le sujet. Être deux entités, pour qu'à un moment, une seule entité peut décider d'anéantir et de se donner la mort. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la question de la TS, donc tentative de suicide, est de moins en moins appelée comme telle dans les services. Par exemple, on parle plutôt d'IMV, donc intoxication médicamenteuse volontaire, par exemple, pour quelqu'un qui aurait tenté de se suicider en prenant un certain nombre de médicaments. Donc on fait disparaître un peu le terme de suicide, de mort, de se tuer, tout en laissant quelque chose de l'ordre du volontaire, mais qui apparaît à la fin. C'est-à-dire que l'intention n'est pas dans un premier temps présente. On parlait aussi à l'époque, il y a encore quelques années, aujourd'hui ça se dit plus, de tentative de suicide d'appel. C'est-à-dire qu'il y avait tout un développement autour du fait que les tentatives de suicide pouvaient être aussi assez hystériques, au sens où il y a une mise en scène, quelque chose qui est adressé à quelqu'un. Ce qui n'était pas inintéressant dans un premier jalon de comprendre pourquoi on parlait de cette forme d'adresse, que je trouve qu'il peut être à penser, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours à prendre avec une extrême attention, et de jamais hiérarchiser les tentatives de suicide, au sens où il y en aurait qui seraient un peu des petites tentatives, et puis d'autres plus importantes. Par contre, se dire qu'est-ce qui s'est passé, à qui est adressé l'acte, quelle était la quête aussi, dans ce passage à l'acte, si en tout cas on peut présumer qu'il y en a une, je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir encore en réflexion. Et c'est complexe, je pense, dans les services hospitaliers, puisque aux urgences ou même dans d'autres services, la question de la tentative de suicide dans un lieu où on soigne le corps, on maintient en vie, ça renvoie quelque chose quand même aux soignants. L'idée de mettre à mal leur capacité à maintenir justement quelqu'un en vie, puisque c'est attaqué dans la tentative de suicide. Alors je me rends compte que j'ai pas défini au final ce que c'est que le suicide, et j'ai regardé un petit peu quelles étaient un peu les définitions proposées. Il y en a une que j'ai piochée dans l'ouvrage de Joanne André, qui définit la crise suicidaire comme une crise psychique dont le risque majeur est le suicide. Et donc elle, en fait, enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète, c'est-à-dire la question du suicide et la question de la crise suicidaire. Et comment aussi on peut être amené à rencontrer des sujets, qu'on soit thérapeute, professionnel, mais aussi dans notre entourage, des sujets en crise suicidaire. Et je trouve que dans ce terme-là, il y a la question de l'impasse. Cette impasse psychique que vient dire la crise. Donc d'être sur une route où il n'y a plus d'issue. Et si vous avez déjà écouté des personnes qui ont eu des idées suicidaires ou sont passées à l'acte, il y a vraiment cette idée qu'à un moment, ils se retrouvent dans l'impossibilité à être de nouveau dans une créativité pour pouvoir tenter de trouver d'autres ressources, d'autres solutions. C'est-à-dire que les routes sont barrées, il n'y a plus rien à faire. On peut le voir d'ailleurs aussi chez les adolescents, où c'est une période quand même assez complexe, la question de l'adolescence, où je trouve qu'il faut avoir une attention particulière, puisque c'est un temps de réactualisation, un temps du tout est possible, où il y a plein de fantasmes qui pourraient être réalisés, et suivant le fonctionnement psychique dans lequel se trouve l'ado, il peut y avoir des pensées qui peuvent lui être très menaçantes, et on peut voir que le passage à l'acte, le geste suicidaire peut être aussi une tentative de se protéger, de trouver une solution quand il y a un risque de pensée, d'acte qui est plus élevé. Et Loffer, elle évoque ce mouvement psychotique dans la tentative de suicide chez l'adolescent, au sens d'une cassure, d'une brisure. Parce qu'en effet, quand on pense le suicide, on peut se demander, justement, comme je vous disais précédemment, de quelle mort on parle, mais aussi mettre fin à sa vie. Est-ce qu'on veut tuer le corps, la tête? Qu'est-ce qu'on veut tuer? Et la plupart du temps, la question même de vouloir que ça s'arrête, c'est pas forcément pareil que vouloir mourir. Donc peut-être qu'en tant que psychologue, penser le suicide que du côté d'un acte qui a pour intention de mourir me paraît un peu simpliste. Alors bien entendu, il y a cet intérêt de tous et toujours présent, parfois très énigmatique, revendicateur, effrayant, de désirer de mourir, d'adresser à quelqu'un qu'on veut mourir. Toujours avec cette idée qu'on est du côté de la volonté, peut-être dans des moments où on ne peut pas désirer ailleurs. Mais comme je vous disais, on ne peut rencontrer que des sujets qui ont fait des tentatives. Donc on parle d'une problématique intraitable, puisque ceux qui ont réussi l'acte suicidaire ne peuvent témoigner. On peut rencontrer ceux qui reviennent de cet acte, ceux qui l'ont souhaité, qui ont voulu mettre en place cette tentative, mais qui a échoué. Et Joanne André, elle l'évoque vraiment, je vous conseille son livre d'ailleurs, qui s'appelle « La vie après le suicide ». Alors c'est marrant ce titre, parce qu'en plus, alors je ne sais pas si c'est mon édition, mais « La vie », il est en rose, donc au début je me suis dit c'est un petit peu énigmatique, cette idée d'un conte de fées après le suicide. Et je trouve qu'elle l'amène d'une façon vraiment pertinente, avec une façon de raconter la clinique qui a beaucoup de sens, mais aussi une réflexion qui se sent d'être ancrée depuis plusieurs années. Et donc Joanne André le nomme bien, le fait qu'on ne peut pas faire une recherche sur le suicide en psychologie, psychanalyse, puisqu'on travaille avec le discours, avec l'observation, et on ne peut rencontrer que des sujets au lendemain, quelques jours après une tentative, et non un suicide. Et elle parle de sujets dits suicidants. Enfin, je trouve que... Alors, je suis pas sûre qu'elle le mentionne dans son livre de qu'est-ce qui fait qu'elle en vient à parler de sujets suicidants, mais je trouve que c'est intéressant sur ce terme-là, comme le « en » au sens de « en train de ». Donc quand même que cette rencontre avec ces sujets, comme s'ils étaient dans une phase de transition, ou à un moment ils ont été quand même dans cette tentative de mettre fin à leur jour, et là ils sont un petit peu dans cette période flottement du côté de la vie et de la mort. C'est un peu quelle direction ils vont pouvoir prendre. Et au réveil, dans ce que peuvent raconter les personnes dans l'après-coup, c'est d'ailleurs se demander, c'est ce que dit Joanne André, s'ils sont morts. Et même quelques mois après, moi dans ma rencontre avec les patients qui ont pu commettre un geste suicidaire, c'est vraiment ce flottement d'ouvrir les yeux et de se demander s'ils sont morts. Alors que la tentative de suicide fait vivre ce sentiment contraire, c'est-à-dire de passer de mourir à vivre, au lieu de vivre à mourir, comme on y est un petit peu tous. Et souvent, donc, c'est intéressant, puisque la tentative de suicide, que ce soit dans un service d'urgence, un service somatique, ou même dans l'après-coup, elle mobilise souvent le fait de rencontrer un ou une psychologue après, voire un psychiatre. Or, je trouve que ce qui est assez complexe, c'est qu'on peut pas rencontrer un sujet qui a commis cet acte, ou qui est encore dans des pensées suicidaires, uniquement autour de ça. Parfois même en tant que praticien, surtout au début, les premières années où on pratique, on peut être très angoissé de ce risque-là, qui nous fait voir le patient uniquement du côté du risque du passage à l'acte, comme en permanent justement un sujet suicidant. Ce serait son identité. Et l'idée, c'est de permettre de structurer de nouveau une histoire autour de cette personne, une angoisse, un sujet, encore du côté du vivant et toujours du côté de ce que contient sa libido, au sens de où va son mouvement, qu'est-ce qui se joue. Et donc Joanne André, elle continue à développer en disant que c'est un vrai paradoxe, cette rencontre. Elle travaille, ou elle travaille, je sais pas si elle travaille actuellement, dans un service d'urgence, il me semble, et donc elle rencontre des sujets quelques heures, quelques jours après leur passage à l'acte. Et le paradoxe, c'est de rencontrer en fait une personne qui a posé un acte plutôt qu'une parole. C'est-à-dire que dans le geste suicidaire, l'objectif est souvent le fait de se couper, d'arrêter sa vie psychique, arrêter de penser. D'ailleurs, les personnes peuvent le dire, je ne voulais plus penser, je ne voulais plus ressentir, je voulais que ça s'arrête. Et pour autant, la rencontre avec le ou la psychologue vient témoigner d'une remise en mouvement. C'est-à-dire porter l'idée de potentiellement réintroduire la pensée face à l'acte, alors que l'acte a été priorisé dans cette impasse psychique. Et le souhait de stopper son monde interne, c'est bien parce que celui-ci a été débordant, envahissant. Donc c'est particulièrement complexe de demander à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé pour lui, alors que la personne a choisi de ne plus penser, qu'il ne se passe justement plus rien. Et c'est toujours étonnant ces rencontres, puisque une personne qui a tenté de se suicider peut parler du vide, du fait qu'il ne s'est rien passé de particulier. Même parfois que c'était un jour comme un autre, qu'elle sait pas pourquoi elle a choisi ce matin-là, ce soir-là, cet endroit. Et ça veut pas dire qu'il faut aller creuser plus, en tout cas c'est mon avis. C'est pas forcément le jour, le moment qui doit être questionné. D'ailleurs souvent en plus il y a un effet quand même de refoulement au bout de quelques jours, quelques mois, ce qui est plutôt intéressant. Ça veut dire quand même qu'à un moment on se reprotège de son propre acte. Et ça s'entend que la personne ne se souvienne de rien. Et donc je trouve que ça n'a pas forcément de sens d'exactement questionner le pourquoi du comment à ce moment-là, mais de voir tout ce qui se passe autour. On dit souvent que c'est bien parce que on sait qu'on va mourir, qu'on est en vie, et qu'on a ce désir de vivre, et chez certains patients, c'est encore plus étroitement lié, c'est-à-dire l'envie de vivre et l'envie de mourir. C'est bien parce que si à un moment, je n'y arrive plus à vivre, je ne tiens plus, que je pourrais prendre la décision de mourir, comme un soulagement de savoir que ça peut quand même s'arrêter. C'est-à-dire que dans cet épisode, et j'espère que vous l'avez eu aussi en tête, et peut-être que ça peut amener à d'autres réflexions, on peut prendre le parti de penser le suicide du côté de la vie, donc une tentative de mettre un terme à son excès, du côté insupportable de la vie, et que celle-ci aussi peut être débordante, envahissante, intense, excessive, et que c'est pour ça qu'à un moment, il y a ce désir que ça s'arrête. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et pour ces premières réflexions, ces amorces en tout cas de pensée. Peut-être que vous en avez d'autres, j'en ai sûrement encore plein d'autres. N'hésitez pas à me les partager, je vous lirai avec plaisir. On se retrouve très prochainement, sûrement à la rentrée, avec, je le souhaite, un contenu un peu plus régulier de ma part. À bientôt, salut!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.